I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sex exploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Nick Cloutier.
Allô! Ça va?
Hello, hello! Ça va?
T'as passé un bon week-end?
Yes! Très beau week-end. Mon Dieu, on dirait que je me rappelle jamais qu'est-ce que j'ai fait durant le week-end quand je reviens lundi.
Ça passe trop vite.
Mais c'était le fun. Ah oui, j'étais sur un tournage hier!
Ah ouais?
Oui, une télésérie à venir, hein? C'est un petit secret. Non, c'était super le fun, oui.
Tu vas être dans une télésérie?
Oui, mais comme serveuse dans un... Tu sais, figurante, ben si on veut. Oui, oui, ouais, j'aime bien ça. J'ai étudié là-dedans il y a une vingtaine d'années, comme à l'école d'acteurs, à Molière Tôt. Puis j'ai refait des cours aux ateliers Fichaud, puis je fais ça une fois de temps en temps. Là, j'aime bien ça.
Intéressant.
J'aime jouer la comédie.
Ben oui!
Donc, d'ailleurs, j'accompagne mon amoureux au ring le 26, vendredi.
Attends, là, tu vas faire de la lutte?
Je serai manager.
Ah, ouais!
Et je serai sans pitié. Melania!
Hein? C'est donc bien cool!
Yes! Il me l'a demandé. J'ai
ben
dit
oui.
Oui,
ben oui.
La grande demande.
Viens-tu être ma manager à la lutte?
Ouais! Non, ça va être super le fun.
Ben oui, j'imagine.
Écoute, on a comme invité ce soir... en fait, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. 418-670-9098. Vous le savez, on aime ça savoir d'où est-ce que vous nous écoutez et qui est en live avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois une personne qui a fait beaucoup jaser lors de son dernier passage. Elle est spécialisée vraiment là, avec les relations de couple et tout ça. C'est Sylvie Rousseau, psychologue, auteure et conférencière. Bonsoir, Sylvie!
Oui, allô Mélanie, allô Nick.
Allô.
Heureuse d'être avec vous deux encore aujourd'hui en cette belle soirée pour parler du couple.
Oui, vraiment, vous allez apporter des outils hyper intéressants pour parler de la première phase de la vie à deux, si je ne me trompe. Parce qu'il y a différentes phases dans un couple, hein, lorsqu'on rencontre quelqu'un. Il y a la première période où il y a les papillons et tout. Puis il y a déjà quelqu'un qui disait, il me semble que j'ai lu ça ou je l'ai vu, bref, il ne faut pas s'engager en couple lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on tombe amoureux.
Ah ouais?
En début de relation, là, dans la période des papillons et tout, là, il ne faut pas s'engager là parce qu'on est comme...
On est aveuglé, j'imagine.
On est aveuglé, ben oui. Exactement. Est-ce que c'est vrai, ça, Sylvie?
Ah, j'aurais tendance à être d'accord avec ça, effectivement, parce qu'au début, là, on n'est pas en amour vraiment, selon moi, avec l'autre personne. Là. On est en amour avec qu'est-ce que ça éveille en dedans de nous, vous savez, ces sensations physiques-là. Moi, je me souviens au début, là, hey, moi, ça fait 35 ans là, que je suis en couple, fait qu'on retourne longtemps derrière. Mais je me souviens que ça prenait tellement de place dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Je me disais, mais mon Dieu, je pourrais pas vivre de même encore pendant des mois. Comme on dit, il va falloir que ça se calme, cette affaire-là. Ben oui, ça se calme. Ça finit par se calmer, mais on veut pas renoncer à ces papillons-là, comme vous disiez tantôt, Mélanie. C'est pas parce qu'après ça, on s'engage dans les autres phases de la vie amoureuse qui comportent leur lot de conflits et d'enjeux qu'on doit faire comme, bon, ben qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était au début, puis on est rendu trop vieux pour ça, puis c'est plus de même à cette heure. Ben on doit comme faire l'effort de nourrir ces papillons-là. Ils ne se sont pas envolés pour toujours. Des fois, ils partent un petit peu comme ça, mais on a la responsabilité, si on veut garder notre amour vivant, de booster ça un petit peu, là, une fois de temps en temps.
Oui, parce qu'au travers... Oh, pardon.
Non, vas-y.
J'allais dire au travers des défis de couple qui vont s'amener, au travers des mois, des années, ces papillons-là, souvent, ils passent en balayeuse pas mal.
Ben oui, exactement. Puis souvent, en début de relation, on est plutôt amoureux du potentiel de la relation que ce qu'elle est réellement. Donc, ou ce qu'elle pourrait être, finalement. Donc, il faut vraiment... Il faut quand même tenter de garder les pieds sur terre, mais tout en savourant ces premiers moments-là, parce que c'est précieux là, quand même, on aime ça, là, ces papillons-là.
Oui, c'est de goûter à ça. Donc, ma conférence de mercredi va s'appeler « Brûler d'amour sans vous brûler les ailes ». Donc, c'est d'accueillir ça, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est bon de sentir ça à l'intérieur de nous. Mais si on confond ça avec l'amour, c'est ce qui amène certaines personnes, quand les papillons s'envolent ou que c'est moins intense, de croire que ben, l'amour l'amour s'est envolé aussi et de recommencer à chercher d'autres papillons dans d'autres relations. Alors que quand on sait que ça fait partie des phases de la vie amoureuse dont vous avez parlé tantôt, Mélanie, ben on tombe pas en bas de notre chaise quand ça arrive. On fait comme, OK, on est rendu là une étape autre dans notre relation. Habituellement, c'est quand on commence à cohabiter ou quand il arrive un bébé. OK, quand on se présente vraiment sous notre meilleur jour, parce qu'au début, là, on sent bon, on est beau, on est belle.
On est en mode représentation.
Ouais, on est en séduction, là, tu sais. Puis on montre nos meilleurs côtés, bien sûr, parce qu'on voudrait qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là. Mais tôt ou tard, je pense effectivement que là, on finit par montrer d'autres aspects de notre de nous-mêmes, des aspects qui sont moins reluisants, des petits côtés sombres, des petits travers. Et c'est là qu'il y a vraiment des difficultés pour bien des couples quand on embarque dans la deuxième étape de la vie amoureuse et qu'on essaie de changer l'autre. On voudrait donc garder tout le temps ces fameux papillons-là, ouais. Mais de faire comme maintenant que je suis débarquée de mon beau petit nuage, maintenant que je vois l'autre vraiment comme il est, pas comme j'ai voulu qu'il soit ou comme j'ai cru qu'il soit, mais vraiment comme il est vraiment avec ses forces, avec ses faiblesses, ben ça va pas être une relation parfaite. De toute manière, ça n'existe pas sur des relations parfaites, pas plus exact. Qu'un homme parfait, pas plus qu'une femme parfaite, mais avec ces imperfections-là, je choisis de transiter vers la deuxième étape de la vie amoureuse.
La deuxième étape qui serait, est-ce que c'est ce qu'on appelle la phase de désenchantement?
Ouais, ou de lutte pour le pouvoir, hein, oui, c'est la désillusion. Okay. Puis plus qu'on a idéalisé la relation, hein, plus qu'on a cru que cette relation-là allait peut-être guérir toutes nos blessures ou qu'elle allait répondre à toutes nos attentes et à tous nos besoins, ben plus qu'on a cru ça dur comme fer, ben quand on s'aperçoit que dans la vraie vie, il va y avoir des choses à négocier, puis il va y avoir des choses qui vont nous taper ses nerfs immanquablement, ben plus que cette phase de désillusion-là peut être dure à traverser. Là.
Et est-ce qu'il y a un délai moyen chez les couples où cette phase apparaît? Ou... Parce que je sais que l'effet euphorisant, l'oxytocine, puis l'espèce de passion, là, ça s'éteint en général entre 18 mois et 36 mois. Ça, c'est hormonal, c'est biologique, c'est chimique en dedans de nous. Est-ce que ça correspond à peu près à ça? Est-ce que ça a un lien, vous pensez, avec...
Moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent le 18 mois, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, quelque chose que je retrouve aussi auprès des couples qui me consultent. Et des fois, c'est plus vite que ça. Hein? Donc, des fois, c'est juste une question de quelques mois. Plus que les gens vont cohabiter rapidement, ben plus qu'ils vont se frotter vite à la vie de tous les jours avec des chaussettes qui traînent, avec des petits retards, avec des affaires qui nous agacent, et que là finalement on va finir par voir l'autre comme il est vraiment et on va se présenter comme on est vraiment.
Il faut accepter aussi, je pense, qu'il va y avoir ces défauts-là et que ce sera de l'imperfection. Tu sais, on entend souvent l'espèce de mythe où les gens vont penser que je cherche l'homme parfait ou la femme parfaite pour moi. Finalement, après un an, je me suis rendu compte que c'était un peu comme l'autre d'avant, désillusionné, c'était pas le mien. Mais en bout de ligne, c'est parce que peut-être on n'accepte pas que ce soit imparfait aussi.
Voilà.
Oui, puis c'est un bon point que vous amenez là, Nick, parce que dans l'autre relation, savez-vous qui est-ce qui va être là? C'est moi.
Oui, c'est ça.
Donc, fait que moi, j'ai bien beau de multiplier les relations. Quand c'est une relation malsaine, toxique, on s'entend qu'on ne reste pas dans ce genre de situation-là. Mais quand ce sont des ajustements normaux, des problèmes de communication, des conflits à résoudre, des négociations, des compromis, ce genre de choses-là, ben il va y en avoir dans toutes les relations. Parce qu'on est deux individus distincts, puis ça se peut pas qu'on ait tout le temps les mêmes besoins puis les mêmes goûts au même moment.
Exactement. Puis moi, en tout cas, j'ai vu des gens, tu sais, qui se plaignaient de toujours tomber dans des relations toxiques. Et bon, toujours les le pattern, même pattern, hein? Ouais. Ça embarque vite, emménage vite. Finalement, ça marche pas. Relations toxiques. Bien, à partir du moment où tu accumules des relations toxiques, peut-être qu'il serait bien de retourner le miroir vers toi et de dire le dénominateur commun dans toutes ces relations-là, c'est quoi? C'est moi. Donc, j'ai laissé passer des choses, j'ai accepté des choses, je n'ai pas respecté mes limites. Donc, c'est en quelque sorte moi la personne responsable de ne pas avoir respecté mes limites, de ne pas avoir fait respecter mes limites. Donc, il faut essayer de casser ce pattern-là si on veut évoluer éventuellement vers une relation plus satisfaisante.
Ce que je dirais pour ajouter à ce que vous nommez, Mélanie, c'est que c'est important dans un processus où est-ce qu'on apprend à se connaître puis on apprend à connaître l'autre, oui, de mettre des limites, de voir dès le départ ce à quoi je dis non. OK, il y a des choses que je veux pas que ce soit transgressé. Il y a des limites, il y a des besoins, il y a des valeurs qui sont fondamentales. Souvent, ce que j'invite les couples à faire, c'est de définir ces attentes-là. Parce que si on s'en va du côté de la deuxième étape de la vie amoureuse, il va y en avoir de ces frictions-là. Mais je dois savoir, moi, qu'est-ce que j'attends d'une relation? Est-ce que mes exigences sont réalistes? Est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que je suis capable de départager l'accessoire, comprenez-vous, de l'essentiel? Mmh. Là, puis l'accessoire, là, c'est la tenue vestimentaire, c'est la couleur des cheveux, on parlait des chaussettes tantôt, c'est des chaussettes qui traînent. Ça, c'est des accessoires, là. L'essentiel, c'est lié à nos valeurs. Ça va parler de la disponibilité, de l'affection, de la réciprocité. Fait que ce que j'invite les gens à faire, qui nous écoutent ce soir, c'est d'essayer de regarder dans cette liste de critères-là quels sont ceux qui sont pas essentiels. OK? Puis que c'est jamais trop tard de faire cet exercice-là. Si vous êtes au début d'une relation, on s'entend, on fait pas ça le premier soir, là. Mais au bout de quelques rencontres, on peut commencer à préciser nos attentes. Et si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous êtes en couple et que vous l'avez pas fait ça parce que vous avez été un peu sur le pilote automatique, puis vous avez pensé que si l'autre vous aimait vraiment, ben il ou elle saurait que... Non, on va le dire clairement. OK, on va nommer qu'est-ce qu'on attend et on va essayer de voir comment est-ce que c'est possible d'apporter des ajustements pour trouver une certaine harmonie conjugale.
Moi, j'ai remarqué souvent, puis peut-être que je me trompe, c'est peut-être ma perception qui est pas bonne, mais j'ai vraiment remarqué avec des couples d'amis ou tout ça que la communication, elle est difficile. C'est-à-dire que quand on va verbaliser nos attentes, nos limites, nos besoins, j'ai l'impression que les couples se parlent, mais ne se comprennent pas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations.
T'as raison, c'est vrai ça.
Oui, et je suis vraiment d'accord avec ça. Je vous dirais que parmi les couples, parce que moi, je travaille uniquement auprès des couples et des adultes, et j'ai un bon bassin de mes clients que ce sont des couples, et je rencontre ça tellement souvent. Et pas plus tard que la semaine dernière, je rencontrais un couple et c'était la première rencontre. Et c'est de l'évaluation à ce moment-là. Je me contente bien sûr de me faire une idée puis de questionner sur les enjeux puis qu'est-ce qui les amène à consulter. Et ce que je leur reflétais, c'est « Mais mon Dieu, vous vous parlez, mais j'ai tellement l'impression que vous vous comprenez pas. Mm-hmm. » On dirait que des fois qu'ils parlent pas le même langage.
Exact.
Ils parlent chinois, que puis ils s'interrompent, puis ils présument que, puis ils interprètent que, puis ils vont aller chercher des affaires qui sont arrivées il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ça complexifie la communication pas mal dans ce parle.
Puis des fois, j'ai déjà entendu... Moi, même ça fait 4 ans, 5 ans que tu me connais, tu serais supposé savoir que...
Communiquer!
Ben oui, c'est ça.
Tout à fait. Et ça, moi, parce que j'entends ça aussi, ce que vous venez de dire, Nick, dans mes consultations. Ouais. Et ce que je leur dis, c'est même si vous l'avez dit une fois, deux fois, redites-le, mais en faisant pas de reproches. Parce que si on fait comme, ben, tu m'écoutes jamais, puis ouais. on sait, ben, t'es jamais là, toi, puis t'es tout le temps en train de me couper la parole, puis t'es, les femmes vont souvent reprocher aux hommes, ouais, mais quand je commence à parler, tu t'en vas, puis, hey, full reproche comme ça, là. Il n'y a pas un gars, il n'y a pas une fille qui va ouvrir son cœur, puis qui va rester là à se faire bombarder de reproches. Là.
Exact. Ah, dans la façon de communiquer votre déception, allez-y au jeu. Et
oui.
Pas au-dessus dans l'attaque. Parce que ça va juste faire en sorte que la personne va vouloir se fermer. Donc, allez-y au jeu. Je suis déçue. Je m'attendais à ce que tu arrives plus tôt, tu sais. Plutôt
oui,
que tu es toujours en retard, tu n'es jamais là. Tu peux, tu sais, je pense que ça pourrait être moins...
J'ai l'impression qu'aussi, on dirait qu'avec les années, il y a une espèce d'acquis qui s'installe. Et peut-être que c'est pas le cas dans la majorité des couples, mais on dirait que le respect s'en va. On dirait qu'il y en a de moins en moins des fois. « Ah, t'as pas ramassé telle affaire. » Puis tu sais, il y a une notion de respect à la communication qui est perdue, peut-être.
Moi, ce que je dis en conférence, mais aussi au couple, c'est la façon que vous vous parlez, parce que des fois, là, c'est ouf, c'est difficile à entendre, là. C'est pas juste des reproches, mais comme vous dites, Nick, c'est aussi du manque de respect,
ouais,
là,
ouais.
Tu sais. Puis des fois, ça se fait juste entre eux, au niveau du couple, mais on voit ça souvent, hein, dans les parties de famille, dans des rassemblements entre amis, où est-ce que les couteaux volent bas en présence de d'autres personnes et que ça crée beaucoup de malaise, là. OK, ça crée un grand inconfort. Donc, de faire comme, hey, attends un petit peu, moi, là, quand j'ai du monde à la maison, là, OK, j'invite des amis, j'invite mes parents, là, ma famille, ma gang. Puis qu'ils laissent traîner, leurs chaussures dans leur hall d'entrée, là. Puis que, ils sapent à table, là. Tu sais, je fais plus comme, mais voyons-toi. OK, c'est comment est-ce que tu as été élevé, là? Ici, ouais. Là, tu sauras que les bottes, c'est pas là qu'on met, puis quand on mange, on parle pas. On fait pas ça avec nos invités. Voyons donc. On tient à nos relations, on chérit ces relations-là, on en prend soin. Alors, pourquoi qu'on se conduirait pas comme ça avec l'être aimé? Pourquoi? Ça veut pas dire de se mettre des gants blancs, là, jusqu'au coude, là. Mais c'est de voir la façon que j'ai d'exprimer ce que je veux et ce que je veux pas. Est-ce que je suis en train, finalement, de saboter tout risque que l'autre écoute véritablement mes insatisfactions?
Exact. Puis il faut pas oublier qu'à partir du moment où on n'admire plus notre conjointe, il risque d'y avoir moins d'amour, là. C'est rare qu'on va rester amoureux de quelqu'un qu'on n'admire pas. Donc, quelqu'un qui nous crie après ou si on est toujours en train de reprocher des choses... Ça peut être
des ordres aussi. Là, j'ai pas le temps, fais telle affaire.
Oui.
Il y a ça aussi.
Oui, des ordres. Et ce que je vois souvent, c'est aussi des commentaires infantilisants.
C'est vrai.
On s'adresse à l'autre comme si c'était notre enfant ou notre adolescent. Et ça, oui, ça va affecter l'amour, ça va affecter la connexion avec l'autre.
Exact.
Oui, il y en a des insatisfactions dans toutes les relations de couple, mais j'ai la responsabilité, hein, quand on dit tantôt qu'on va retourner la caméra vers nous, ben c'est de prendre notre part de responsabilité au lieu d'être dans les tu-tu-tu, comme vous disiez tantôt, Mélanie. C'est comment est-ce que moi, là-dedans, quel est le bout qui m'appartient à moi, là-dedans? Dans ma façon de parler, dans le ton que j'utilise, dans le choix de mes mots, comment est-ce que je veux créer un contexte où est-ce qu'il va y avoir de la compréhension mutuelle? Parce que si je sors les balles de ping-pong puis qu'on se lance ça, ben non, il n'y en aura pas d'entente possible. Et là, on peut finir par se désengager d'une relation qui est pourtant saine, parce que hein, des conflits, là, il y en a dans tous les couples, mais de croire que finalement, ben c'est pas une bonne relation pour moi parce qu'on se chicane. Puis, c'est pas de se chicaner qui est un problème, c'est la façon qu'on a de se chicaner et comment qu'on se comporte en dehors des séances de chicane.
Exactement. Puis moi, j'utilise le drapeau blanc ou comme là, présentement avec mon conjoint, lorsqu'on n'est pas en accord ou lorsqu'il y a un changement de plan, ou on utilise un petit crayon. Un crayon rouge, là, en emoji, là, mettons qu'on est en texto, ou si on se parle, OK, crayon rouge, on refait le plan. C'est notre façon à nous d'éviter d'escalader en conflit. Je sais pas si...
Ah, oh, c'est bon ça, Mélanie, ce que vous dites là, de vous trouver un code.
Oui, c'est okay, ça.
Dans certains cas, moi, je propose le time-out, qui est juste une façon de dire, hey, là, je suis plus en état, là. OK, si on continue, là, on va se faire juste du mal pour rien. Donc, que ce soit de dire le time-out, que ce soit de faire le geste de time-out, que
exact.
Ce soit, je trouve ça chouette, votre stylo,
crayon
votre
rouge!
Drapeau.
Encore
oui.
Un matin, on a fait, OK, crayon rouge! On s'en parle
oui.
Tantôt.
Puis on peut faire comme de l'humour en autant que ce
exact.
Soit pas. Parce que des fois, les gens s'en servent comme une façon de fuir le dialogue. Aussitôt qu'il commence à y avoir un petit inconfort, là, je sors le time-out. Non, OK, donc c'est normal qu'il y ait de l'inconfort. On est en train de discuter de quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Donc, de tolérer un certain niveau d'inconfort, mais d'éviter l'escalade. Parce que si je monte en escalade, j'écoute plus ce que l'autre dit, l'autre ne m'écoute plus, on ne trouvera pas un terrain d'entente.
Non,
ça ne va pas être possible.
Et parfois, j'ai déjà remarqué également qu'il y a des gens qui refusent le time-out, qui se frustrent que lorsqu'on va quitter la conversation, qu'on va dire ah, « OK, j'ai besoin d'air », il y a des gens qui sont pas capables d'assumer ça, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Hey, vous avez raison. C'est bien le fun de parler avec vous deux.
On n'est pas du tout dans les sujets qu'on avait prévus, mais c'est correct.
Non, mais je trouve vraiment que vous avez une belle qualité d'introspection. Oui. En tant que psychologue, c'est sûr que ça me réjouit toujours quand j'entends ça. Mais effectivement, vous avez raison, Nick. Et je l'ai vu encore, hein, moi, dans les couples, c'est des choses que je vois souvent. Là, j'explique le time-out, OK? Donc, les règles du time-out. Les time-out, c'est dire, là, je suis plus en état, OK? C'est pas parce que je fuis le dialogue, c'est que je suis submergée. Puis c'est pour protéger notre relation. C'est pour ça que je veux me retirer. Puis l'autre talonne, comprenez-vous? Là, oui. Je m'en vais, je vais aller dans la salle de bain ou je vais m'en aller, tu sais, dans ma chambre, OK, pour juste me calmer. Non. Hey, non. Hey, on n'a pas fini de régler
oui, ça.
Non. Tu vas rester avec moi. Non. On ne peut pas dormir là-dessus tant que c'est pas réglé. Oui, on peut dormir là-dessus si c'est pas réglé.
Okay, oh, ça,
c'est
ça,
des affaires de l'ancien temps.
Mais
là.
Ça, c'est difficile, hein, se coucher en conflit. En tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis incapable. Moi, je ne peux pas me coucher s'il y a un conflit, on dirait.
Ah oh, oui, on peut. Ah, on peut. Ça se prend parce qu'on apprend à réguler. OK? On apprend à réguler nos émotions. Il ne faut pas que ce soit une fuite, bien sûr.
Non, c'est
mais
ça.
Dire là, je ne suis pas en état de régler ça ce soir. Hey, des fois, la chicane pogne à 9h30.
Oh,
OK? Puis pendant combien de temps là, qu'on va étirer ça? Puis quelle sorte de nuit qu'on va passer? Puis comment qu'on va se réveiller le lendemain matin? De faire comme, hey, toi et moi, on sait bien, là, on est en chicane. On est tous les deux là, on le voit bien que ça ne marche pas. OK, mais là, par respect pour moi, par respect pour toi, parce que si on continue comme ça, OK, je vois pas dans l'état de fatigue que je suis, comment est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose qui va nous permettre de dénouer cette impasse-là. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on dorme là-dessus.
Je t'aime, mais j'ai besoin d'aide.
On va reprendre ça. Parce qu'il faut reprendre là où est-ce que ça marche pas. C'est que des fois que les gens... Oui, il y a des gens qui talonnent, OK, puis qui respectent pas la limite. Puis il y a des gens qui, après avoir mis le time-out, ne reviennent pas. OK, fait que ça fait partie des deux enjeux là que je trouve souvent dans cette technique-là, qui font en sorte que les gens disent « Ouais, mais je l'ai essayé, mais ça marche pas.
»
Ben ça marche pas parce que les règles n'ont pas été bien comprises ou établies ou respectées.
Ça, c'est quelque chose qui devrait être abordé dès le début de la relation.
Ouais.
Tu sais, de dire « Hey, regarde, ça va super bien, là, mais... » Quand il y aura un conflit, quand il y aura un désaccord ou quelque chose, là, on devrait utiliser ça. Tu sais, le prévoir. Je pense que
tellement
ça peut être
d'accord.
Bien.
Tellement d'accord. Puis encore une fois, Mélanie, c'est qu'il n'est pas trop tard de faire ça.
Non.
Si vous
ne
l'avez pas fait au début de la relation, puis que vous voyez que vos chicanes partent en vrille comme ça, puis que ça devient des escalades, puis que vous vous dites des choses blessantes, de faire comme, hey, on peut-tu s'entendre? Donc, on a écouté, là, une conférence, là, avec Nick puis avec Mel. Puis là, la psychologue suggérait ça. Serais-tu game qu'on essaye ça? Ou mercredi, à la conférence que je vais donner. OK, ça débouche sur des actions parce que on a bien beau faire des belles entrevues, des belles conférences.
Vous
mais
les
après
appliquez.
Ça prend des actions parce que
exact.
Sinon, c'est des prises de conscience. C'est beau. Première étape du changement, prise de conscience. Mais sans action, ben ça va rester une mauvaise juste de belle prise de conscience.
Exact. C'est déjà le moment de la pause. Ça va si vite, ce show-là. Ça n'a aucun bon sens. Madame Rousseau, vous restez avec nous?
Bien sûr.
Parce qu'on va parler de votre conférence, évidemment, au retour de la pause, des différents sujets que vous allez aborder durant votre conférence qui est gratuite et sur le web dès mercredi soir. Et je veux aussi vous parler de la loi du 80-20 en amour. Donc, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec Mélanique, la sexploratrice sur les ondes de choix. Mélanique! Mélanique! C'est
ça
beau!
C'est bien quand même!
C'est un beau nom, ça, c'est ben. Ça? Mélanique.
Mélanique.
Mélanique. OK. Revenons à nos moutons. On est tombé énervé. Donc, Mélanique, la sexploratrice sur les ondes de choix, 98.1 Radio X. Une invitée en or avec nous, encore une fois, ce soir. On parle de couple, de relations de couple et de différents enjeux, finalement, les différentes phases du couple. Et docteur Sylvie Rousseau, psychologue, conférencière et auteure était avec nous. Elle présente une conférence ce mercredi soir. On va donner tous les détails de la conférence tout à l'heure. Mais juste avant de poursuivre, moi, je voudrais savoir, Mme Rousseau, qu'est-ce que vous pensez de la loi du 80-20 en amour? Parce qu'il y a bien des recherches en psychologie qui démontrent que dans une vie de couple normale et stable, on obtiendrait, semble-t-il, 80% de ce que l'on recherche chez l'autre. Donc, ce qui est quand même un pourcentage très intéressant. Mais le 20% restant, ça se résumerait dans ce qu'on considère le plus négatif ou ce qu'on peut pas avoir chez l'autre. Et il y a des gens, en fait, comme l'humain, a tendance à focusser sur ce qu'il n'a pas, hein, plutôt que d'apprécier ce qu'il a. Bien, il y a des gens qui, soit dans une crise de quarantaine ou après quelques années de couple, vont focusser sur le 20 % qu'ils n'ont pas, plutôt que de focusser sur le 80 % de tout ce qu'ils ont de satisfaisant dans la relation. Et lorsqu'ils vont croiser un 20 %, donc une personne qui détient, disons, 20 %, mettons-le, quelqu'un qui trippe sur la lutte, un exemple comme ça, là, okay? Mettons-le, puis sa conjointe ne trippe pas lutte pantoute, mais il croise une fille qui trippe sur la lutte, bien, ça se pourrait qu'il laisse aller tout le 80 % de choses satisfaisantes qu'il ressent en couple parce qu'il est attiré par la personne qui détient 20 % de ce qu'il aimerait avoir, et là, va quitter la relation, va se ramasser dans une relation qui détient 20 % seulement de ce qui le satisfait, de ce qu'il apprécie, alors qu'au final, au bout d'un certain temps, les insatisfactions vont refaire surface. Mm-hmm. Et la nostalgie également, parce qu'il va regretter d'être parti, d'avoir quitté une personne qui détenait quand même une relation, en fait, dans laquelle il y avait 80 % de satisfaction. Ça, est-ce que vous voyez ça souvent, des gens qui quittent une relation qui était pourtant, qui semblait satisfaisante pour quelque chose qui a été intéressant, mais de façon éphémère?
Ce que je comprends au-delà des chiffres du 80-20, c'est la tendance, on dirait, de l'être humain de voir qu'est-ce qui ne marche pas.
C'est vrai. Mmh. On focus sur le négatif.
Ben, tu sais, dans une journée, par exemple, là, il s'est passé plein de choses dans ma journée. Et il est arrivé, mettons, un petit accro à mon travail avec une collègue là à 9 heures le matin. Puis, il est arrivé plein d'autres affaires dans ma journée, de fun, des gens qui m'ont souri, qui m'ont félicité d'un truc, qui se sont renseignés sur mes projets personnels. Mais moi, mon mousse de cerveau, il est juste en train de faire, ouais, mais pourquoi qu'elle m'a dit ça? Puis il aurait peut-être pas dû dire ça. Puis on sait bien. Puis on dirait qu'on a tendance à ressasser les affaires qui vont pas bien. C'est comme une tache d'huile sur mon comptoir. Puis là, je la répands un peu partout sur le comptoir. Puis après ça, je me dis, mais mon Dieu, c'est donc bien huileux, ce comptoir-là. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? C'est un petit accro. Parce que des fois, c'est pas des grosses affaires, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie de couple, là. Quand on n'en démarre pas, on l'a pas le morceau, comme on dit.
C'est,
là. C'est pas tout le temps dans des grosses affaires. Quand c'est des grosses affaires, je comprends là, qu'on s'assoit et on dit non, ça passe pas. Puis ça va à l'encontre de mes valeurs. Puis ça respecte pas du tout mes limites. OK, là, on est dans les vraies affaires. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que ce sont des nicknacks du quotidien. Et là, je m'en vais chercher ce petit nicknack-là que je mets avec un autre qui est arrivé la veille, l'avant-veille. Puis là, ça devient une grosse boule d'insatisfaction. Ah oui. Et là, à un moment donné, je finis par dire, ben, un peu comme on se disait précédemment, mais peut-être que cette relation-là est pas pour moi.
Qu'est-ce
que j'en fais?
C'est des problèmes solubles.
Ben, c'est parce qu'on verbalise les nicknacks du quotidien, les bas qui traînent, le plat dans l'évier, la télé qui est restée ouverte, la porte
c'est
dans le
noir.
Puis on va verbaliser ça. Ah, t'as oublié tes bas. T'as... Mais on verbalise pas tout ce qui a été positif dans la journée. Hey, aujourd'hui, tu m'as demandé comment ça va, j'ai aimé ça. On dira pas
c'est
ça.
Vrai.
Moi, puis c'est tellement vrai. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, un psychologue américain. Je suis allée à Seattle prendre un atelier de 4 jours avec lui il y a quelques années. Il avait peut-être, mon Dieu, 75 ans à ce moment-là. Fait que là, puis il pratique encore, là. Et lui, il a fait des recherches auprès des couples. Et il fait de la psychothérapie après les couples. OK? Puis c'était vraiment super parce que lui, il appelait ça le Love Lab. C'est John Gottman. Si vous avez la chance de lire des choses sur John Gottman, là, c'est vraiment du bonbon. Là. C'est plein de beaux outils. Et ce qu'il disait dans son Love Lab, c'est qu'il faisait venir des couples pendant toute une fin de semaine, dans un beau petit environnement. Tout était payé avec de la bonne bouffe, puis avec une vue sur la rivière, puis... plein de petits avantages comme ça. Et qu'à un moment donné, il y avait des capteurs, comprenez-vous, pour la respiration, pour la salive, bon, pour les battements cardiaques et tout ça. Et ce qui arrivait, c'est que quand la lumière tournait au vert, il fallait qu'ils abordent des sujets conflictuels entre eux. Et quand la lumière tournait au rouge après, il fallait arrêter d'en parler. Et là, il y avait une batterie nécessairement de chercheurs en arrière des miroirs pour relever tous ces indices-là. Et Gottman et son équipe s'est rendu compte que les gens qui vivent heureux longtemps en couple, ce ne sont pas des gens nécessairement qui sont à l'abri des conflits. C'est, comme on disait tantôt, la façon qu'ils ont de démarrer les conflits. Donc, est-ce que je démarre un conflit en critiquant, en insultant l'autre, ou est-ce que je suis en train de sortir des vieilles affaires? Comment j'aborde ça? Et après ça, une fois que le conflit est terminé, donc quand la lumière changeait de couleur, ben ils voyaient s'ils continuaient quand même de se chicaner, s'il y en a un des deux qui babounait dans son coin, qu'est-ce qu'il faisait? Et entre autres, dans ces recherches-là, ce que Gottman a vu, c'est que les couples qui sont heureux, et c'est le lien que je fais avec ce que vous disiez, Nick, il y a tout juste oui. quelques instants, c'est qu'ils font 5 fois plus d'interactions positives. OK, de compliments, de remerciements, de reconnaissance, 5 fois plus que les couples qui sont pas heureux ou moins heureux. OK, donc, et ça, c'est gratuit, là.
Oui.
OK, ça coûte rien de dire à l'autre, « Hey, c'est vraiment gentil que tu t'es pensé de m'apporter un verre de jus avec mes petits biscuits. »
Le café le matin.
Hey, là, c'est rien, ça, pantoute. Mais pourquoi on le fait pas? On ne gêne pas pantoute pour critiquer. Puis là, on devient un petit peu gêné quand c'est le temps de donner du feedback positif à l'autre.
C'est vrai. Moi, j'ai instauré quelque chose, là, puis j'en ai déjà parlé dans la sexploratrice, justement, même qu'on faisait la journée. Le soir, on demandait aux gens, quelle est votre gratitude de la journée? Mais en couple, vous devriez aussi l'appliquer, même que le petit pot de la gratitude que vous pourriez, je suis vraiment quétaine, mais à mon fils, depuis 2016, moi et mon fils, on a ça, donc chaque jour, ou presque chaque jour, on tente d'écrire au moins 3 gratitudes dans la journée, mais en couple, ça peut être le fun aussi à faire. Vous pouvez même, sans le faire dans un journal, le faire sur un petit bout de papier, une seule gratitude de la journée. Ce que vous avez apprécié dans votre journée en couple, là, en lien avec votre partenaire, vous l'écrivez sur un bout de papier avec la date, vous le déposez dans le petit pot, puis au bout de l'année, vous pouvez relire tout ça, puis c'est tellement le fun. Ça crée un lien, je trouve. Oui, ça crée quelque chose de beau entre les deux partenaires.
Oui, absolument, la relation plus saine aussi.
Oui, vraiment, c'est de focusser. Voilà, donc c'est de focusser vraiment sur le beau plutôt que sur le négatif, chose qui est tellement facile à faire.
C'est que ça nourrit la relation quand on fait ça.
Oui.
Hein, que ce soit avec nos enfants, ben oui, mon Dieu Seigneur, qu'on le fait donc bien. T'es donc bien beau, puis c'est donc bien beau ton dessin, puis hey, Colin, je suis donc bien fière de toi. Puis il n'y en a pas de gêne pour faire ça avec nos enfants. Et pourquoi que quand c'est avec notre partenaire de vie, avec la personne qu'on a choisi de bâtir quelque chose de durable, que là, parce qu'il y a des affaires qui sont pas guéries, que je le dirai pas, ou ben l'autre, j'attends que l'autre. Hein, quand l'autre, il me le dira, ben moi aussi, je vais lui dire non. OK, je peux pas attendre. Moi, j'appelle ça avec mes couples le thermostat des blessures, là. Je peux pas attendre que le thermostat des blessures soit à zéro pour recommencer à agir avec l'autre d'une façon plus aimable, d'une façon plus affectueuse. C'est possible, même si c'est pas tout guéri à l'intérieur de moi, d'aller vers l'autre pareil et de tendre la main.
Voilà.
OK, donc moi, ce que je dis à mes couples, c'est qu'on met de l'argent dans le compte de banque affectif quand on fait ça. Fait que là, on se ramasse avec un beau petit coussin, puis quand il y a des intempéries, puis qu'on se chicane, bien, au moins, on vide pas le compte de banque, il va nous en rester un petit peu. Mais si on est que dans les reproches, que dans les critiques, que dans « t'aurais pas dû faire ça, puis moi, si j'étais à ta place, je le ferais de même », ben qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est que j'ai pas envie de me rapprocher de l'autre. Ça affaiblit la connexion avec l'autre.
Exact. J'ai partagé quelque chose récemment qui, je pense, rejoint un peu ce dont vous allez discuter dans votre conférence. J'ai partagé une espèce de quote dans laquelle je disais « Soyez la personne qui vous rendra heureux ». Parce qu'on a tendance à voir des gens qui multiplient les rencontres à la recherche d'un partenaire qui va comme venir
apporter
les
du bonheur,
complètement. Ouais. Ben en fait, c'est des gens qui, on dirait qu'ils vont être, ils se sentent pas entiers s'ils sont pas en couple.
Oui, oui, oui.
Des gens qui ont l'impression que leur manque toujours quelque chose, donc qui vont trouver un partenaire dans le but de combler un manque plutôt que d'en faire un plus à leur vie. Et je crois que vous abordez ce sujet-là en conférence. En fait, on voulait parler ensemble du 1 plus 1 égale 1.
Oui, tout à fait, Mélanie. C'est dans la première phase de la vie amoureuse dont on a parlé d'entrée de jeu tantôt, c'est qu'on est tellement, tu sais, avec l'autre, on est en fusion avec l'autre, on voit l'autre dans notre soupe, et souvent, ben, on en arrive même à négliger certaines amitiés, à négliger certains passe-temps, parce qu'on veut tellement être avec l'autre. Donc, on fusionne avec l'autre, et c'est ça, cette formule-là que j'appelle le 1 plus 1 égale 1, c'est que là, je perds mon côté unique, comprenez-vous? Je perds mes qualités propres. Je finis par m'oublier au profit de l'autre. Et il y a un risque vraiment de finir par étouffer au sein d'une relation comme ça. Des fois, dans des petits exemples banals, ce que j'entends, c'est on se sent obligé d'aller se coucher à la même heure que l'autre, de revenir à la même heure que l'autre dans une soirée, de renoncer à sortir avec certains amis, de renoncer à faire la grasse matinée. Vous savez, des petites affaires comme ça, mais à la longue, bon sang, ça vient éteindre des aspects de nous autres-mêmes. Oui. Fait que, est-ce qu'on peut garder vivant, et je le souhaite de tout cœur, qu'on garde vivant ces aspects-là de soi?
Okay?
Parce qu'on n'est pas juste un nous, on est un je au départ. Donc, pour avoir un nous qui soit vivant, qui soit stimulant, qui soit pétillant, ben, je dois garder aussi le côté pétillant à l'intérieur de moi, d'aller me nourrir en dehors de ma relation de couple, sans compromettre, bien sûr, la relation de couple, mais d'aller chercher des zones d'intérêt, mes passions, donc de
les garder vraiment.
Oui, garder tout ça.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas mettre tout dans le même panier, finalement, de la relation de couple. Là. Au début, oui, il y a une phase, on dirait, qui ressemble beaucoup à ça dans la phase de passion. Et c'est là, je pense, qu'on peut se brûler d'amour. Comprenez-vous, on peut en arriver à tellement investir, moi je dirais même à surinvestir dans la relation amoureuse qui fait en sorte qu'on se perd de vue soi.
Mais des gens qui sont parfois caméléons, qui vont se modeler, s'adapter aux besoins de l'autre pour fitter dans la relation, même si ça va à l'encontre de certaines valeurs ou de traits de personnalité. Là.
Ah oui, on voit ça, hein, laisser de côté ses propres passions, ouais, pour suivre les passions de l'autre. Et là, on finit qu'on s'éteint. Donc, la personne est tombée amoureuse de nous rayonnant en pratiquant tel truc. Et là, tranquillement, on s'éteint. Donc, on se brûle, finalement, comme vous dites si bien. Et ça fait en sorte que l'autre nous admire un peu moins ou est moins attiré. On est moins attrayant. Tu sais, on brille moins. On s'éteint. Puis tout ça, c'est volontairement qu'on le fait. C'est un peu fou.
Puis il y a des fois qu'on va rendre l'autre responsable de ça.
Mmh.
On va faire comme, garde, c'est ta faute aussi. Tu sais, je vois plus mes amis assez. C'est ta faute. Oui, mais est-ce que moi, j'ai nommé mon besoin? Est-ce que moi, j'ai mis la limite dont on a parlé tantôt? Est-ce qu'on en discute de ça?
Ouais.
Hein? C'est des discussions que j'appelle courageuses parce qu'on met les vrais enjeux sur la table. Mais ce n'est pas contre l'autre. C'est pas pour faire des reproches à l'autre. C'est pas pour amener l'autre à être quelqu'un d'autre. C'est juste de dire, regarde, moi, j'ai ces besoins-là et c'est important pour moi. Je tiens à respecter mes besoins, mais comme je choisis d'être en couple, je veux aussi être sensible à tes besoins. Donc, quels sont tes besoins? Quels sont ceux auxquels je peux répondre? Hein, on parlait des attentes tantôt, bien, au niveau des besoins, c'est ça, hein, d'en arriver à dire, ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Puis comment est-ce qu'on va pouvoir trouver une zone de relatif confort, hein, parce que ce ne sera pas tout le temps confortable, mais où est-ce que je vais, accepter ces différences-là, d'accepter la personne que tu es avec tes forces, avec tes faiblesses. Comprenez-vous? Donc, pas amener l'autre à être quelqu'un d'autre. Je suis tombée en amour avec cette personne-là. Pourquoi je veux changer cette personne-là? OK, il y a des petits travers. Ben oui, mais moi aussi, j'en ai des petits travers. Donc, est-ce qu'on peut faire preuve de tolérance envers des petits caprices, des petites habitudes? OK? Donc, pas des choses essentielles. Les choses essentielles, on ne devrait pas faire de compromis, à mon avis.
Non,
mais
c'est
ça. Mais les petites affaires du quotidien, mon Dieu, est-ce qu'on peut être un peu plus flexible?
Vous l'avez bien dit, compromis. Moi, je pense qu'on est mieux de trouver des consensus que de toujours être dans le compromis. C'est de tenter de trouver un endroit où on se rejoint. Tu sais, bon, OK, on va faire ça, mais on peut aussi faire ça. Un juste milieu, exactement.
Ce que je nuancerais, Mélanie, c'est que le consensus, ça, c'est un bel idéal, mais c'est pas toujours possible à atteindre le consensus. Alors que le compromis, puis ça, il y a différentes écoles de pensée là-dessus.
Ouais.
Mais moi, à mon avis, c'est de chercher des compromis qui vont être mutuellement satisfaisants. Ça veut dire que je vais renoncer à quelque chose.
C'est ça.
Une partie qui ne sera pas satisfaite. Et l'autre va aussi renoncer en partie à quelque chose pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente ensemble.
Ça veut
dire que si je suis juste en train de tirer ma couverte de mon bord puis que l'autre il tire la couverte de son bord, on ne pourra pas trouver quelque chose de mutuellement satisfaisant.
Mais non, on est toujours dans la renonciation de trucs. On ne sera jamais bien.
Puis si on renonce à tout, ben on ne sera pas bien. Comprenez-vous? Donc, le compromis, ça ne veut pas dire que moi, je vais m'éteindre et que je vais faire OK d'abord, puis que je ne parlerai pas pour acheter de la paix avec l'autre. Ça, c'est pas gagnant.
Non,
mais alors que si je fais comme OK, ce petit bout-là, je suis capable de le concéder. Puis l'autre est de bonne foi, puis l'autre est capable de concéder un autre petit bout, comme je viens de dire. Bien là, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Et si on arrive à ça, bien on l'assume. On ne va pas remettre ça sur le nez de l'autre
personne
après.
C'est ça que j'allais dire. Parce que parfois, il y a certains compromis qui deviennent monnayables. Ah, bien là, regarde, le chalet camping avec toi, ça ne me tentait pas. Maintenant, là, ça devient une monnaie d'échange. Il ne faut pas en arriver là.
Non.
Bien, ce n'est pas souhaitable, effectivement. Parce que si j'assume pleinement... Donc, je renonce à quelque chose, ben je devrais pas l'avoir de travers dans la gorge après puis de saisir la prochaine occasion pour essayer de marquer des points sur mon besoin à moi. OK? De faire comme, OK, je suis pleinement consciente et pleinement responsable du choix que je fais. Non, ça fait pas mon affaire d'aller, par exemple, au camping, comme vous dites, Nick.
C'est un exemple de même.
Mais parce que je tiens à notre relation, parce que je sais que c'est important pour toi, ben je vais y aller. Si le camping, c'est moins 2 sur 10, là, ben, je vais dire à mon mari, écoute, j'entends ton désir de camping, mais moi, là-dedans, je pourrais pas t'accompagner parce que c'est du moins 2, là, comprenez-vous?
Ouais, c'est ça.
Mais si c'est du 2-3, là, ben oui, je vais faire un effort pour aller découvrir les joies du camping, peut-être même si ce ne sera pas la meilleure fin de semaine de ma vie, sachant que l'autre aussi, à certains moments, va venir me rejoindre. OK, dans des zones qui sont moins confortables pour lui, parce que lui aussi tient au nous, puis qui est capable de faire des concessions.
Il ne faut pas que ce soit juste d'un bord tout le temps non plus, c'est ça?
Non, mais non, exact.
Non, parce que si c'est juste d'un côté, ben c'est là qu'on a l'impression de ramer toute seule. Et si c'est ça, ben on peut-tu s'asseoir avec l'autre sans y faire de reproches, puis dire, regarde, OK, moi, je tiens à notre relation. Au lieu de se désinvestir en silence ou d'entrer dans des guerres, je tiens vraiment beaucoup à notre relation. Puis ce que je veux dire, c'est vraiment par amour. Je vais essayer de le dire du mieux que je suis capable de le dire, mais j'aimerais ça qu'il y ait des changements. Parce que je veux, tu sais, qu'on continue, tu sais, de grandir ensemble en tant que couple. Je veux qu'on continue d'avoir des projets de couple ensemble. Puis là, j'ai l'impression que la façon qu'on a de communiquer, c'est en train de nous éloigner l'un de l'autre. Puis c'est pas ça que je veux.
Non, exact. Et là, vous avez une super belle conférence. La dernière a été vraiment très populaire auprès de nos auditeurs. Ils ont adoré. C'était en lien avec Partage au masculin, qui vont venir d'ailleurs la semaine prochaine en entrevue avec nous. J'ai bien, bien hâte de parler avec eux.
Wow! Ça va aider beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui voient qu'il y a des services maintenant offerts aux hommes partout en fait, de Rappalaches.
Ah, tellement le besoin est criant de ce côté-là. Mais là, la conférence que vous proposez mercredi soir, c'est le 24 avril, 19h, en formule Facebook Live, donc c'est gratuit, donc tout le monde peut y accéder, vraiment, c'est super intéressant. On parle d'une conférence dont le nom est « Brûler d'amour sans se brûler les ailes ».
Oui, tout à fait. Donc, « Brûler d'amour », ça fait référence à la première étape de la vie amoureuse dont on a parlé tantôt.
Oui.
Donc, tous ces papillons-là, puis le fait d'être vraiment dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête, habité par cette nouvelle relation-là, et que des fois qu'on a tendance à fusionner avec l'autre. OK, donc on va mettre la table par rapport à ces enjeux-là, de les normaliser, mais aussi de voir que si on veut un amour qui est durable, ben là, à ce moment-là, il va falloir comme renoncer à ce que les papillons soient là en permanence, mais pas en faire le deuil, comme je vous disais tantôt. Et dans la deuxième partie, et c'est là l'essentiel de la conférence, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour pas se brûler les ailes? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer d'investir au sein de cette relation-là et en arriver à avoir la relation de couple telle que je la souhaite? Pas l'idéal, OK, parce qu'une relation idéale ou parfaite, on l'a dit, ça n'existe pas.
L'âme-sœur non plus n'existe pas. On va défaire le mythe. L'âme-sœur non plus n'existe pas.
Et que je suis tellement d'accord avec vous. L'âme-sœur, puis ma tendre moitié, puis tout ça, là.
C'est tellement galvaudé qu'on le cherche.
C'est les films. C'est... Ouais. Dans les films, on nous présente ça sur un plateau d'argent. Ça, c'est une relation amoureuse. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On ne voit pas le après. On ne voit pas tous les défis qui viennent après ou, tu sais, c'est... En tout cas, c'est le cinéma nous présente des trucs complètement faux.
Oui, puis c'est que ça entretient des espèces d'utopie. OK, que si dans mon couple, je me réveille un matin puis que je file pas, puis que, bon, j'ai pas salué l'autre et que j'ai pas été toute souriante, puis que... OK, je dis, bien, ça fait partie de la vie, là. OK, c'est effectivement qu'on les voit pas beaucoup, ces choses-là, dans les films.
Hein? Fluctuation d'hormones qui impacte le caractère et l'humeur. On voit pas ça non plus dans les films.
Non.
Oui, puis comment qu'on peut composer avec ça, de faire comme... C'est vrai qu'on nous présente pas beaucoup ça, puis ça peut venir teinter notre image de l'amour.
Complètement.
Et que quand on se frotte à des frictions de la vie de tous les jours, qu'on peut remettre en question, comme on l'a dit tantôt, des relations qui sont pourtant saines, parce que là, mon Dieu, on s'est accroché. Ben oui, on va s'accrocher. Hein, dans John Gottman, dont je vous parlais tantôt, il dit qu'il y a 69 % des conflits qui sont insolubles dans un couple. 69 %. Ça veut dire qu'on va se chicaner tout le temps à peu près sur les mêmes sujets. Ça ne veut pas dire que notre couple ne va pas bien parce qu'on se chicane sur les mêmes sujets, mais on peut apprendre à se faire moins mal quand on va se chicaner.
Mais en sachant ça, est-ce qu'on peut se dire ensemble, regarde, on se chicane toujours là-dessus, on n'en parle plus, on évite le sujet, ou y a-t-il un truc qu'on peut développer en sachant qu'il y a des trucs qu'on ne sera pas capable de résolver?
Ben, si on évite à ce moment-là, je pense qu'on va se retrouver avec l'insatisfaction grandissante à l'intérieur de nous, mais de faire comme effectivement, hein, les chicanes tournent autour essentiellement des sujets de l'argent, de la sexualité,
du partage
des tâches, l'éducation des enfants, la belle famille. Donc, ça tourne beaucoup autour de ça. Et des fois, c'est parce qu'on a des valeurs qui sont différentes. Comme par rapport à l'argent, il y en a qui se disent, ben moi, là, je veux profiter de la vie. OK, pour moi, là, j'ai vu des êtres chers mourir avant la retraite puis qu'ils disaient qu'ils allaient profiter de la vie à ce moment-là. Bien, moi, je veux pas ça. OK, donc,
de l'autre côté, il y a l'autre qui veut juste piler pour plus tard.
Oui, parce qu'il est insécure, parce qu'il veut se faire une belle retraite. Puis... Donc là, si on essaie de convaincre l'autre que c'est nous autres qui avons raison, on va se frotter toujours à la même incompréhension. Fait que comment est-ce qu'on peut s'en parler en se disant, bon, ben par exemple, là-dedans, est-ce qu'on peut avoir un petit compte pour la spontanéité de la vie puis les petits plaisirs, puis un compte, par exemple, pour assurer ta sécurité? Comprenez-vous, on va vivre encore de l'inconfort par rapport à ça.
Oui.
Mais il y a moyen quand même de mettre des choses en place pour se heurter moins fort.
Exact. Et c'est de ça dont vous allez parler dans cette magnifique conférence virtuelle présentée le 24 avril, 19h, en formule Facebook Live, sur votre page Facebook, Dr Sylvie Rousseau, psychologue?
Oui, psychologue.com. Puis je vais vous dire que je vais aussi proposer quelques exercices. Alors, les gens qui prennent part aux conférences, j'aime ça, qui repartent avec des exercices concrets à faire, parce qu'on, comme on le disait tantôt, c'est important, après une conférence, après une entrevue, de poser des petites actions, si petites soient-elles. Alors, il y aura aussi, bien sûr, des exercices. Donc, c'est mercredi qui vient, le 24 à 19h sur Facebook Live. Vous pouvez aller sur la page de Partage au masculin, qui organise cette autre conférence-là sur le couple, ou sur ma page. Moi, j'ai une page Sylvie Rousseau psychologue ou Sylvie Rousseau, ma page personnelle. Allez vous inscrire. Vous allez avoir juste un petit rappel là, quelques minutes avant. Et venez avec nous autres, parce qu'aujourd'hui, on a mis la table. Ça a été super riche comme échange.
Ah,
et il y en
merci.
A bien sûr un peu plus là, lors de la conférence.
Oui. Est-ce qu'on peut écouter en rediffusion cette conférence-là?
Et non, les gens. Et quelle bonne question. Les gens doivent être là à cette heure.
Je vais essayer d'y être.
Oui, c'est vraiment... c'est une fois mais les gens, je sais qu'avec la belle émission de ce soir, on peut aller la réécouter sur Spotify.
Mais passé le 24 avril,
conférences, non,
c'est
passé. C'est
passé,
exactement. Donc, on les invite à être vraiment nombreux et nombreuses, et c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, même si Partage au masculin offre uniquement des services aux hommes partout en Chaudière-Appalaches,
oui.
comme ils ont dans leur mission de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, ben ils ouvrent ça à tout le monde.
C'est génial. Un immense merci encore une fois, docteur Sylvie Rousseau, psychologue. Toujours un plaisir de discuter avec vous.
C'est vraiment intéressant,
Vraiment.
Merci à vous deux. Ce fut vraiment très nourrissant pour moi aussi de vous parler aujourd'hui.
Beaucoup de commentaires sur le live. On n'a pas eu le temps de vous lire, mais on garde ça en note pour les prochaines fois lors des... on va faire des séances aussi de la boîte à mail avec Dr. Paul Simard. Merci beaucoup, Nick. Toujours
merci
un plaisir. Merci, chers auditeurs et auditrices. C'était un plaisir de vous savoir avec nous. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel.